petit essai ?
Allez. Faut que ce soit assez dégueu, contracté, hein, que ça fasse pas trop lecture non plus.
Tu vois ? Je pense que c'est bien.
France, 1970, environ. Daniel Charles, musicien, philosophe, s'entretient avec John Cage, compositeur. Silence, son, musique, composition, hasard, anarchie. Autant de thèmes de conversation pour aborder l'univers cagien. Une mise en voix par Étienne Noiseau et Jean-Marc Montera de Pour les oiseaux, réédité en 2002 aux éditions de l'Herme.
Alors John Cage, voudriez-vous donner quelques précisions sur le matériau ? J'aimerais que vous parliez par exemple de la Bacchanale parce que c'est la première œuvre de vous où intervient le piano préparé. Alors, toute une légende s'est glissée autour de ce piano préparé. Vous-même avez observé que les critiques musicaux ne se donnaient guère le mal d'inventorier avec exactitude ce qu'il y avait dans le piano à l'instant où vous aviez fini de le préparer. On a parfois ajouté à ce que vous y mettiez vraiment des fourchettes, des stylos, des objets que vous n'y placiez jamais.
Oui, même de la neige.
Voulez-vous rappeler les circonstances de votre invention ?
Le théâtre où devait être dansé le ballet de Sylvia Fort n'était pas assez spacieux pour un orchestre de percussion.
À l'époque, vous dirigiez un orchestre et même des orchestres de batteurs.
Oui, et j'avais des problèmes de salle. Cette fois-là, la solution n'est arrivée que 3 ou 4 jours avant le spectacle.
Et vous vous êtes dit, ce n'est pas le théâtre qui est en cause, ni moi qui suis coupable, c'est le piano.
Oui.
Vous avez décidé de placer à l'intérieur du piano des substances non pianistiques.
Oui. Enfin, de mettre entre les mains d'un seul pianiste l'équivalent de tout un orchestre de percussion.
C'est un principe d'économie.
Avec un seul musicien, on peut vraiment faire une infinité de choses à l'intérieur des limites du clavier, à la condition de disposer d'un clavier éclaté.
Et votre goût pour le matériau vous conduisait à faire éclater non seulement le clavier, mais aussi, au profit de la forme, tout ce qui est structure.
Dans le cadre précis de la Bacchanale, j'ai simplement suivi la structure de la danse.
En quel sens ?
J'ai pris un métronome et un chronomètre et je demandais à Sylvia Fort les mesures de la danse et en pris les mesures, j'ai pu écrire la musique.
Directement ?
Oui, à partir de la structure de la propre danse. Les compositeurs de musique de film pour Hollywood ne procèdent pas autrement.
Et après la Bacchanale ?
J'ai poursuivi cet élargissement du matériau.
Ainsi, vous avez introduit dans le piano autre chose que du bois, du métal ?
Oui, aussi du caoutchouc. Dans The Perilous Night, il y a autre chose que du bois, mais le bois, c'est le bois qui joue, c'est le bambou.
Et pourquoi ?
Ma mère avait eu l'idée que ça ferait meilleur effet, si je pouvais mettre dans le piano des choses naturelles.
Alors j'en reviens à votre définition du matériau. Vous avez caractérisé jadis votre musique comme reposant à la fois, et à égalité, sur les sons et les silences.
Oui, mes solos de piano surtout prennent le silence au sérieux.
En les écoutant, on songe à certaines pièces japonaises pour le koto, où les attaques sont isolées, réparties avec soin dans le silence. Alliez-vous ou iriez-vous jusqu'à considérer que la séquence silence-son-silence constitue l'essentiel de cette musique ?
Chaque fois qu'il y a, comme dans l'œuvre auquel vous pensez, une structure du temps, on peut diviser ce temps et introduire au titre du matériau le silence. J'ai essayé de faire comme Satie ou comme Webern, clarifier la structure soit avec les sons, soit avec les silences.
Vous vous éloignez en cela de la conception traditionnelle du silence. Votre silence n'est plus celui du musicien classique qui se dit « reposons-nous dans la méditation qui suit l'audition du son ».
Je ne voyais pas pourquoi il lui fallut privilégier les sons.
Prendre au sérieux le silence, ne pas privilégier le son musical, c'est donc élargir aussi le son lui-même.
C'est refuser de le voir asservi à ce qu'il est convenu de considérer comme musical.
Vous intégrez au son de votre musique les sons des gens qui toussent.
C'est-à-dire ce que les autres appellent le silence. J'échange les sons et les silences.
Ce faisant, vous bouleversez la musique.
La musique, comme vous dites, n'est qu'un mot.
Diriez-vous que ce que l'on continue à appeler « silence » par habitude appartient en réalité à un autre domaine ? Ou bien le silence relève-t-il de ce même domaine, la musique ?
C'est déjà du son. Et c'est à nouveau du son. Ou du bruit. Cela devient du son à ce moment-là.
Votre œuvre entraîne la musicalisation de ce qui n'était pas musical au départ et qui devient votre musique.
Oui, mais notez que ce processus a pris des années.
C'est une critique à l'égard du langage que vous partez, puisque le langage parle de silence et qu'il n'y a jamais de silence. Si le silence n'existe pas, on ne peut pas le posséder. Si le son et le silence à la fois s'opposent et sont le même, est-ce qu'on peut posséder les sons? Est-ce bien là ce que vous vous êtes dit?
Oui. Et vous comprenez alors comment j'ai été conduit à repenser la structure. Si le silence n'existe pas, nous n'avons que des sons. Mais à ce moment, on commence à s'apercevoir qu'on n'a plus besoin de la structure. Petit à petit, j'ai brisé toute structure.
Est-ce qu'en cela, vous réalisez ce que Suzuki, votre introducteur dans le zen, appelle la non-obstruction?
Oui, le son ne fait plus obstacle au silence. Le silence n'est plus un écran à l'égard du son.
Il serait alors faux de penser que le zen se fixe un terme, un arrêt, un but, qui serait par exemple l'état d'illumination où toute chose se révélerait comme néant.
Ce néant n'est encore qu'un mot.
Comme le silence, il doit se supprimer lui-même.
Et par là, on revient à ce qui est, c'est-à-dire au son.
Mais ne perdez-vous pas quelque chose?
Quoi?
Le silence, le néant...
Vous voyez bien que je ne perds rien. Dans tout cela, il n'est pas question de perdre, mais de gagner.
Revenir au son, c'est donc revenir en deçà de toute structure, au son accompagné de néant.
Et le retour s'effectue vers quelque chose de tout à fait naturel. Les hommes sont à nouveau des hommes, les sons sont à nouveau des sons.
Avait-il jamais cessé de l'être?
Bien sûr que non. Mais le zen a montré tout cela mieux que nous.
Votre démarche dépend donc du zen?
Non, pas entièrement. Il n'y a pas eu que le zen.
Vous devez tout de même l'essentiel de ces idées à votre maître Suzuki?
Dès que j'ai commencé à étudier la philosophie orientale, je l'ai introduite dans ma musique. À cette époque, on prétendait toujours qu'il faut qu'un compositeur ait quelque chose à dire. Eh bien, ce que je disais, ce n'était rien de plus que ce que j'avais compris alors de la philosophie orientale. D'abord, celle de Sri Ramakrishna, celle de l'Inde. Le zen est venu plus tard. J'ai effectivement eu Suzuki pour maître.
Au départ, vous étiez soucieux, par exemple, dans votre musique des années 45, d'exprimer quelque chose?
Oui, je pensais que la musique doit communiquer. Par exemple, les sonates et interludes tendaient de mettre en musique certaines idées de Sri Ramakrishna et les principes esthétiques de l'Inde.
Comment, de là, en êtes-vous venu à la non-obstruction et à l'interpénétration selon Suzuki, en l'occurrence, à échanger le silence et le son?
J'ai écrit un concerto pour piano préparé et orchestre de chambre. J'en ai fait un drame entre le piano, qui reste romantique, expressif, et l'orchestre, qui, lui, suit les principes de la philosophie orientale. Et le troisième mouvement signifie l'accord entre les choses qui étaient opposées dans le premier mouvement.
Cet accord réconcilie le son et le silence?
Mais sans encore les échanger. Il n'y a pas non plus d'échange entre son et silence dans nombre d'autres œuvres, comme le quatuor à cordes. C'est avec les 16 danses que je suis entré en confiance dans le domaine du hasard. En effet, Merce Cunningham avait préparé 16 danses. Il avait à ce moment-là des idées semblables à celles que je développais dans mes sonates et interludes. Cela signifiait qu'il voulait une musique qui exprimât des émotions. Alors j'ai voulu voir si je pouvais répondre à une commande de musique expressive en me servant des moyens de hasard.
Vous aviez le souci de remplir réellement cette commande?
Oui, et s'il m'était possible de le faire, cela voulait dire que je pouvais marcher avec le hasard, n'est-ce pas?
Et pourquoi le hasard?
Nous avons parlé du silence comme l'ensemble des sons non voulus. Échanger le son et le silence, c'était avoir recours au hasard.
Très bien, mais au fond, rien ne pouvait plus vraiment dépendre de vous. Vous tiriez votre épingle du jeu. On vous en a adressé souvent le reproche. Vous cessiez d'être à proprement parler le compositeur. Cependant, n'y avait-il pas quelque mystification dans cette pétition d'irresponsabilité?
Mais si le travail que je faisais dans cet état d'irresponsabilité était accepté par un autre, par celui qui donnait l'ordre et qui avait soif de commander, cela voulait bien dire qu'il devenait parfaitement possible, et sans porter atteinte à l'honorabilité de ce qui fut, de se fier au hasard, n'est-ce pas?
Cela me rappelle un épisode de votre jeunesse. Lorsque vous étiez élève à Pomona College, on vous notait. Et vos notes étaient excellentes, même quand vous n'aviez pas travaillé.
Il n'y avait pas à proprement parler de relation entre mon travail et les notes que j'obtenais.
Aviez-vous le sentiment d'une injustice?
Non, je ne m'indignais pas, je constatais. comme pour le hasard. Il m'a suffi de constater qu'avec ou sans hasard, le résultat n'était pas indifférent.
Pour les oiseaux, une mise en voix d'Étienne Noiseau et Jean-Marc Montera, des entretiens de Daniel Charles avec John Cage. La suite, demain, 9h30, rediffusion 15h30.